Aujourd'hui, nous allons parler de LIFT 07, qui est un rassemblement d'observateurs, de chercheurs et d'entrepreneurs qui se réunissent pour échanger leurs visions sur les différents défis et les perspectives issues des technologies émergentes. LIFT 07, ce sera donc 2007, ce sera 3 jours pendant lesquels les passionnés de technologie pourront discuter tant des applications les plus récentes que des développements imaginés pour l'environnement professionnel ou personnel. Ce sera du 7 au 9 février. Et aujourd'hui, nous allons en parler avec les organisateurs, Laurent Haugue et Nicolas Nova. Les deux sont déjà venus nous parler des développements de ces techniques. Et ensuite, Patricia Lopez nous parlera aussi de différentes manifestations, tant à Lausanne qu'à Genève, pour ce week-end. Tout d'abord, Laurent Haugue et Nicolas Nova, bonjour.
Bonjour.
Cette conférence, vous écrivez sur votre site web de lift07.org, c'est juste, et que c'est plus qu'une conférence.
C'est un petit peu, on essaie de faire plus qu'une conférence en fait. On a créé pas mal d'initiatives qui permettent de différencier LIFT d'une conférence classique, à commencer par plusieurs moments dans la conférence où les gens qui sont venus écouter pourront en fait monter sur scène et parler. Donc il y a 2 initiatives particulièrement, c'est des ateliers qui se déroulent tout le mercredi 7 février où n'importe qui peut proposer un atelier autour d'un thème qui lui tient à cœur. Et ensuite les 12 ateliers les plus plébiscités, donc dans lesquels il y a le plus d'inscrits, sont mis au programme dans des salles que nous fournissons. Et puis le vendredi, on a fait un concept de scène ouverte où, de nouveau, en tant que participant, on peut proposer un sujet sur lequel on va faire une présentation de 20 minutes. Et puis tous les gens qui participent à LIFT sont invités à voter sur toutes les présentations. Et donc les 8 plus plébiscités sont mises dans le programme officiel. Donc ça vient en fait d'un constat qu'on avait fait suite à l'édition 2006 où on s'était rendu compte que LIFT était avant tout un rassemblement d'une communauté. Donc nous, on trouvait un prétexte pour cette communauté, pour que cette communauté se rassemble. C'était d'inviter des speakers, des gens assez connus ou qui faisaient des choses intéressantes dans le domaine des nouvelles technologies. Mais dans la salle, on avait tout un tas de gens extrêmement intéressants qui auraient tout autant mérité d'être sur scène. Donc on voulait un petit peu s'occuper de ce problème cette année, quoi.
Alors tous ces gens intéressants, qui sont-ils? À quel public est-ce destiné?
Alors en général, le public, on a 3 familles, un peu de personnes qui viennent. On a tout d'abord les gens du monde académique. Donc c'est vrai que la région et la Suisse est quand même un réservoir académique assez impressionnant. Donc il y a les gens de l'EPFL. On est partenaire avec l'Uni de Genève, aussi avec l'Uni de Lausanne, c'est des institutions qui font des prix pour leurs étudiants. Et on a quelques personnes du CERN aussi qui viennent. Ensuite, on a tous les gens du monde économique. Donc on touche pas mal de grosses entreprises comme les Nestlé, Philippe Morris et autres, et aussi toutes les PME, donc énormément d'entrepreneurs qui viennent, d'investisseurs aussi. Et puis le troisième groupe, c'est tous les gens des organisations internationales. Donc c'est vrai que de par la position à Genève et de par le fait que les organisations internationales sont extrêmement friandes de nouvelles technologies, il y a une grosse présence d'institutions comme le CICR, comme les Nations Unies, UNAIDS, etc.
On a l'impression que c'est réservé un petit peu à un public de professionnels, non? Est-ce que ce sont les gens doivent s'inscrire ou est-ce que l'on peut aussi venir assister à des conférences sans inscription?
Alors, Nicolas Nova? Non, c'est plutôt basé sur le mode de l'inscription. Mais moi, je voudrais revenir sur l'aspect... la présentation sur le fait que c'est pas forcément technique ou technologique. L'idée, c'est plutôt de s'intéresser à les gens qui sont présents dans l'audience ou dans les personnes qui vont faire les présentations vont plutôt parler de comment ces technologies sont utilisées dans le contexte qui est leur, que ce soit des gens qui vont parler d'artistes et la manière dont ils utilisent les technologies pour créer ou des personnes d'une organisation commerciale ou non commerciale qui utilisent les technologies pour leur métier ou alors des chercheurs. Mais le but, c'est pas de parler de technologie pour la technologie, c'est plutôt pour dire comment est-ce qu'elle est utilisée aujourd'hui et comment éventuellement ces choses qu'on peut voir peuvent nous permettre d'imaginer comment ces technologies seront utilisées demain. Et ça m'amène à une dernière catégorie de gens qui est un peu, on s'est aperçu un peu en filigrane dans les inscriptions, qu'il y a beaucoup de futuristes ou de gens d'instituts de prospective qui s'inscrivaient, donc qui ne sont pas forcément ni des organisations internationales ni des sociétés privées, mais souvent des consultants ou même des chercheurs académiques qui s'intéressent à venir récolter un peu ces éléments, ces signaux faibles de potentialité pour comprendre un peu comment le futur proche ou un peu plus lointain pourra s'organiser.
Et parmi les intervenants, est-ce que l'on trouve principalement des gens issus de disciplines telles que les vôtres, par exemple, comme la sociologie, ou principalement des businessmen, ou est-ce que des chercheurs en informatique, est-ce qu'il y a une ligne générale de l'intervenant de LIFT?
Alors, les profils sont extrêmement variés. Donc, le thème de la conférence, c'est les technologies dans la société. Comme l'a dit Nicolas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous placer du côté de la personne. Qu'est-ce que la technologie va changer pour l'individu, et donc aussi bien du point de vue de la vie privée que de la vie professionnelle. Donc, les intervenants sont extrêmement larges, puisque c'est un thème extrêmement large, et ça va de l'entrepreneur qui a fait fortune avec son entreprise dans le monde du web, jusque aux chercheurs, jusque en l'occurrence cette année, on a donc la bonne sœur qui au Vatican s'occupe du site internet du Vatican. Donc il y a vraiment je pense qu'on a une quinzaine de nationalités pour 35 speakers. Cette année, on a par exemple un Indien qui est un professeur qui met dans les rues de certaines villes en Inde des ordinateurs connectés à internet pour que les enfants des rues aient accès à Google, pour qu'ils ne soient pas trop défavorisés par rapport à l'accès à l'information. On a le directeur du Festival des Nouveaux Médias de Pékin qui vient. On a quelqu'un qui a bâti un empire autour d'Internet en Corée du Sud. On a des blogueurs américains, on a des entrepreneurs finlandais, des chercheurs français. C'est extrêmement varié. Et en effet, c'est ce qui nous plaît justement. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on voudrait que LIFT soit un endroit dans lequel on vient chercher des nouvelles idées et on vient chercher un petit peu les tendances de demain. Et donc nous, on identifie ces quelques courants, puis dans ces courants, on essaie de faire venir des personnes qui sont pas forcément très connues, mais en général, c'est vrai que nous, on est une des premières conférences de l'année, puis on retrouve nos speakers ensuite, le reste de l'année, dans d'autres conférences, parce que ce sont des thèmes qui deviennent assez pertinents.
Peut-être que Nicolas Nova.
Et finalement, il y a le profil type, c'est plutôt pour des gens qu'on essaie de sélectionner, c'est plutôt des différentes catégories de personnes qui peuvent parler de ces technologies avec des perspectives beaucoup plus ouvertes que la technique en tant que telle, et que nous, on identifie comme porteurs de potentialité et que l'on aimerait amener à la communauté. Il y a quand même deux catégories de gens qui... Ça, c'était un peu l'idée de LIFT, notamment l'année dernière, c'était à la fois d'avoir des gens locaux, parce que il y a beaucoup de gens dans la région lémanique ou en Suisse qui font des choses intéressantes et qui les gens ne les connaissent pas forcément, et d'amener des personnes de l'extérieur et que tout ce petit monde se mélange et échange des idées, notamment des résultats, des créations ou leur expérience par rapport à l'usage des technologies.
Alors, toutes les compagnies actuellement qui ont fait véritablement fortune sont très jeunes, elles ont presque toutes moins de 10 ans, si l'on pense à Google, à Yahoo et les autres. Est-ce que, en même temps, ceux qui trouvent, ceux qui cherchent dans ces domaines, est-ce que la moyenne d'âge est beaucoup plus jeune que dans le business en général?
Bon, il faudra regarder la moyenne d'âge à la fois des speakers ou oui. Des participants. Je pense que dans les speakers, c'est clair qu'on se situe plutôt dans la tranche 30-40 ans. Pour les participants, on n'a pas forcément les informations, ouais. Mais c'est certain que
ceux qui produisent. Donc.
Ouais. Il y a un ciblage quand même particulier, donc il n'y a pas forcément personnes âgées ou adolescents.
Nous avons parlé des thèmes, il y aura donc plusieurs workshops. Est-ce qu'on peut dire que le nombre des inscrits révèle les grandes préoccupations du moment? Vous, Nicolas Nova, par exemple, j'ai remarqué que jusqu'à hier, vous aviez recueilli le plus grand nombre d'inscrits pour votre workshop qui s'appelle « Designing the Future ». Est-ce que, justement, c'est le moyen, peut-être, c'est une idée que vous avez testée?
Alors, d'abord, pour répondre à l'aspect, est-ce que les workshops sont représentatifs de certains courants? Je pense que c'est plus représentatif des personnes qui ont envie de pousser certaines choses, certaines idées, et qui ont pris le parti de prendre un peu de leur temps pour proposer quelque chose. Moi, si je regarde un peu tous ces thèmes, mon analyse me dirait que oui, c'est représentatif de certains aspects des technologies et de leurs usages, mais il manque des choses, hein, et on ne peut pas non plus...
Ça reflète quand même un petit peu les préoccupations du moment. On parle beaucoup de de social software, on parle beaucoup de marketing, on parle beaucoup de... Donc il y a un workshop qui a pas mal de succès qui s'appelle « Comment démarrer dans le consulting ?» Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui réfléchissent à lancer leur entreprise. Il y a quelques workshops autour du concept d'open source. Donc, oui, c'est bien sûr que ça reflète les tendances du moment, mais faut pas non plus trop lire dans le nombre d'inscrits, parce qu'il y a aussi un peu un phénomène de voilà, Stoveboyd, c'est un des plus grands blogueurs du monde, c'est lui qui a le premier trouvé un peu ce terme de social software. Donc, je pense que même s'il proposait un workshop complètement autre chose, son workshop serait plein parce que c'est quelqu'un d'assez connu, donc il faut pas non plus négliger ça.
Et puis,
mais c'est intéressant à suivre.
En tout cas. Le mien, par exemple, il a un titre assez vague, donc j'imagine que ça doit peut-être inspirer les gens et de servir un peu de tribune pour justement. Enfin, moi, ce que je ressens, s'il y a du monde à ce Designing the Future, c'est que les gens ont envie de parler, discuter de ces questions, et c'est un peu le lieu pour le faire. Donc c'est un peu l'idée.
C'est vrai qu'il y a quand même des méthodes, il me semble. Enfin, le workshop sera fait avec un professeur de Stanford, qui s'appelle William Cocaine, qui est quelqu'un qui travaille dans la prospective. Et donc c'est vrai que quand même, même dans ce domaine-là, il y a des méthodes qui sont assez intéressantes. Il y a des choses...
Extrapolation de tendances actuelles, essayer de trouver quels sont les signaux aujourd'hui qui peuvent être extrapolés pour essayer d'imaginer des scénarios du futur. Et c'est un peu l'idée de ce workshop, on va travailler sur le futur de la ville.
Et dans les scénarios actuels, le fait, vous nous avez parlé tout à l'heure de cette bonne sœur, enfin je suppose que c'est un énorme service de communication qui fait le blog du Vatican, enfin MySpace, c'est juste.
Et leur site web.
Est-ce que maintenant les efforts sont plutôt orientés vers ce moyen de communication? C'est presque une consécration, si on peut dire, pour ce moyen de communication.
Alors, je sais que le pape a un podcast, qu'il y a différentes choses qui sont faites autour des nouveaux médias au Vatican. C'est vrai que le Vatican a un site depuis 1995 en plusieurs langues. C'est un site qui a gagné des prix, etc., qui est assez connu. Mais ce que nous, en fait, on invite la sœur qui travaille vraiment en ce moment, je crois qu'elle travaille avec Sun, enfin vraiment avec des boîtes de technologie extrêmement pointues pour mettre en place un MySpace, donc un réseau social, un de ces sites où on va, on met son profil et puis on se connecte un peu avec ses amis, on commence à chatter avec eux, à s'échanger des photos, etc. Donc le Vatican va faire un MySpace pour les catholiques. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que quand on a vu cette idée, on s'est dit mais ça a énormément de sens, parce que finalement les religions sont des réseaux sociaux. Et c'est uniquement maintenant la technologie qui vient se mettre par-dessus un phénomène, une réalité humaine. Et on voulait voir comment un peu les deux s'intégraient. Et donc, elle va venir parler globalement, de façon générale, comment est-ce qu'une religion peut utiliser ces technologies. Donc en l'occurrence, il y a Muslim Space aussi, qui est l'équivalent musulman. C'est un réseau social pour les musulmans, où ils peuvent aller se rencontrer, etc. C'est quand même...
Qui permet en même temps l'échange de chat.
Qui permet l'échange, qui permet de découvrir les gens qui partagent la même foi autour de chez soi, qui permet de peut-être d'organiser des fêtes, de se retrouver à l'église ou ailleurs.
Donc l'avantage par rapport à, par exemple, l'Osservatore Romano, c'est non seulement de pouvoir recevoir des informations, mais également de communiquer.
Voilà, je pense que ça permet un peu de fédérer les gens, de les mettre ensemble. Et puis là, il y a clairement une opportunité pour les religions, parce que c'est... Les gens passent de plus en plus de temps devant leur ordinateur et de moins en moins peut-être dans les lieux de culte. Mais là, ça va permettre à la religion de revenir un peu s'immiscer dans la réalité de pas mal de gens. Donc ça correspond à leur but. Donc nous, on est totalement neutre. Enfin, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est vraiment la démarche. C'est, quelle que soit la religion, ce qui nous intéresse, c'est la démarche. Et on trouvait ça assez fascinant comme idée.
Évidemment, c'était d'avoir cette personne qui va discuter, c'était l'opportunité de comprendre quel est le discours d'une institution millénaire par rapport à des problématiques de communication qu'ils ont depuis donc beaucoup de temps, et quelle est leur vision par rapport à l'utilisation des technologies, et est-ce que c'est leur vision qui va être sous-tendue par les technologies, ou alors est-ce que ces technologies vont les amener à modifier leur manière de fonctionner, de communiquer avec leur public, entre guillemets.
Alors Laurent, vous avez regardé ce site, puisque vous en parlez, vous avez invité cette sœur. Comment se présente-t-il?
Est-ce que c'est aussi un site performant? Il n'est pas encore sorti, ils sont en train de le sortir, donc elle va venir un peu le présenter. Mais voilà, je trouve que c'est quand même une initiative assez fascinante. Je pense que les religions doivent avoir beaucoup de mal à avoir des nouveaux adeptes dans les jeunes générations, qui sont de moins en moins... Proche de ce genre de valeurs, et du coup ils sont en train de bouger pour un petit peu aller les chercher maintenant.
Donc l'évangélisation par internet.
Voilà, pourquoi pas. Et ce qui moi m'intéressait en fait, c'est que moi j'ai travaillé dans une entreprise qui avait 200 ans et assez souvent on disait oui, enfin le raisonnement qu'il y avait là-bas, c'est que comme ils étaient ici depuis longtemps, ils n'avaient pas forcément besoin de tout ce qui était nouveau. Enfin, les changements les concernaient pas. Et là, un des messages qu'on aimerait faire passer de par la présence de Sister Judith, c'est de dire à une organisation qui est très établie, qui a l'habitude de fonctionner depuis longtemps, que les technologies sont avant tout une opportunité pour développer des nouvelles choses, pour s'ouvrir plutôt qu'une menace. Et c'était un peu le parallèle qu'on souhaitait faire.
C'était Escobar et nous sommes toujours avec Laurent Haug et Nicolas Nova pour parler de la conférence LIFT consacrée aux nouvelles technologies et en même temps ces technologies émergentes, les influences dans notre vie. Nous sommes avant la pause musicale, Laurent Haug, nous parlions de la menace, vous parliez des différentes menaces, il y a celle donc sur la vie privée. Est-ce que vous trouvez que les médias ont souvent, je parle des médias grand public, hors l'informatique, ont tendance à privilégier ou à instaurer une sorte de peur? Je pense par exemple à celle où on vous dit avec tel matériel, votre employeur peut vous suivre partout, vous redonner du travail le soir. Il y a aussi les journaux qui ont publié récemment, la semaine dernière, Nicolas Nova, vous vous souvenez quand on parlait de géolocalisation, cette fameuse mini-balise que vous pouvez glisser dans la poche de votre épouse ou de votre ami et qui vous suit partout. Est-ce que donc vous trouvez qu'il y a un catastrophisme associé au développement?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord une diabolisation qui est claire et c'est un petit peu dommage de certaines technologies, mais il y a aussi un manque d'éducation de la part des gens. Je pense que les médias font passer peut-être un message qui est important, mais de la mauvaise façon, parce que il y a clairement des risques qui sont associés à la technologie. Il y a énormément de risques, par exemple pour les ados qui s'exposent sur MySpace ou ailleurs, un peu à outrance comme ça, puis sans faire attention. Alors il y a bien sûr quelques histoires extrêmes, mais de façon générale, c'est vrai que c'est un problème, parce que quand on a 15 ans, si on raconte toute sa vie, Google a une mémoire quasi infinie. Peut-être dans 10 ans, quand on sera en train de rechercher un emploi, il y a un employeur qui va taper son nom dans Google et puis tomber sur des trucs qu'il n'aurait pas eu besoin de voir, etc. Donc il y a juste un peu, à mon avis, un manque d'éducation, ou peut-être on transmet pas assez le fait qu'il y a certaines règles assez simples à respecter pour protéger son identité. Et voilà, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a un peu toute cette agitation autour de certains phénomènes qui n'est pas toujours très utile.
Enfin, le phénomène du blog est quand même relativement large, puisqu'on le voit avec les politiques qui s'exposent même de façon relativement intime dans les grands journaux.
Ils savent pourquoi ils le font aussi. Ils attendent quand même un certain retour par rapport à ça. Quand on voit l'exemple en effet anglais de Cameron, le futur David Cameron, qui a fait un site où on le voit cuisiner, bon, il le fait aussi pour passer le message qu'il cuisine et que c'est quelqu'un comme tout le monde et que donc il faut voter pour lui. Donc il y a toujours on essaie toujours de gagner quelque chose en s'exposant sur le web. Ce qu'il faudrait, c'est faire peut-être prendre conscience aux gens qu'il y a des risques sur le long terme. Mais il y a un risque inverse aussi. Moi, quelque chose qu'on m'avait dit une fois, j'ai trouvé assez fascinant. C'est quelqu'un qui m'avait dit, OK, si un employeur trouve votre profil MySpace de quand vous aviez 15 ans, c'est pas très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si l'employeur ne trouve rien? Alors que toute votre génération avait un profil MySpace, vous n'en aviez pas. Est-ce qu'il va se dire que vous étiez un asocial? Est-ce qu'il va se dire que vous savez pas utiliser un ordinateur? Finalement, est-ce que l'absence d'information va aussi devenir quelque chose de négatif?
Ou alors, est-ce que si mon employeur n'est pas content de ce qu'il voit, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec cet employeur? Ça, c'est une autre réalité possible. Mais dans ce qu'on peut voir, là, on parle plus de respect de la vie privée ou de divulgation d'informations. C'est clair qu'on s'achemine de plus en plus dans une espèce de société de transparence dans laquelle toutes les informations sont disponibles, mais pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Et on a du mal à en mesurer encore les conséquences. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. C'est juste que quand certaines personnes peuvent avoir l'information et d'autres ne l'ont pas, qu'il y a certains problèmes qui peuvent apparaître. Un deuxième point qui est intéressant, c'est avec toutes ces technologies, que ce soit justement d'accéder à des informations sur l'autre, comme on venait d'en discuter sur les blogs, ou alors l'exemple que vous mentionniez avec ce système de traquage, de position des gens, c'est le fait que les gens finalement mettent en place des stratégies pour essayer de se détourner de ce genre de choses. Et ça, ça se retrouve soit dans le comportement des utilisateurs, mais aussi dans d'autres projets, notamment d'artistes qui essayent de mettre en place des caches de Faraday pour téléphone, pour que vous ne soyez pas géolocalisé dans certains endroits, ou alors d'avoir des espèces de zones où il n'y aurait pas de signal électromagnétique. Et que finalement, à chaque fois qu'il y a ces nouvelles technologies qui apparaissent, on pourrait se dire que, je sais pas, le train aussi, ça pouvait poser problème. Un couteau, potentiellement, c'est très dangereux. Donc, on pourrait interdire les couteaux. Et que finalement, il y a des espèces de règles qui se mettent en place, hein, pas forcément des lois, mais des règles communes. L'éducation aussi fait que on peut essayer de trouver des solutions. Mais aussi, les gens ont des comportements annexes qui font que cette espèce de risque potentiel des technologies peut être détourné. Et de toute manière, rien n'est jamais parfait.
Mais en même temps, j'imagine que l'on sait refuser des technologies qui seraient un petit peu trop invasives. Je pense au téléphone 3G, où actuellement, il semble que personne n'ait envie de voir son interlocuteur ou de pouvoir être surpris par un coup de téléphone sur lequel vous apparaîtriez.
Oui, mais c'est... Il n'y a pas que la raison invasive, il y a aussi le modèle économique qui fait que ça peut coûter cher. Et puis finalement la valeur ajoutée est pas spécialement. Enfin, pour l'instant, les seuls pays où ça marche plus ou moins, c'est un petit peu au Japon et également en Italie. Donc il y a peut-être des différences culturelles intéressantes à investiguer, mais c'est. Le problème avec ce genre de technologie, c'est que c'est des systèmes complexes et il n'y a pas une seule raison qui fait que ça marche ou que ça marche pas. C'est certain que l'aspect invasif en est une. J'ai pas envie qu'on boive sous la douche et peut-être je suis dans un autre endroit et j'ai pas envie qu'on boive. Mais il y a d'autres problématiques et notamment des problématiques ergonomiques ou technologiques qui font que l'image n'est pas forcément bonne et que ça se passe pas comme on le voudrait.
Et les bouleversements donc qu'apportent ces technologies dans nos vies, ce sera aussi un thème très important traité dans les workshops, qui est celui de ces changements, notamment l'apport de stress dans notre vie, la façon dont on le consomme, et la charge supplémentaire que l'informatique, parce que d'un côté elle nous décharge de certaines heures, mais d'un autre point de vue. C'est aussi une charge. Alors, Nicolas Nova.
Alors dans ce cadre-là, il y aura un workshop, mais également un panel avec pour l'instant plusieurs spécialistes, dont Stéphane Broadbent, qui est psychologue chez Swisscom Innovation, et puis un psychologue cognitif de l'Université de Lausanne. Donc la psychologie cognitive, c'est la psychologie qui s'intéresse. La psychologie, c'est la science des comportements. La psychologie cognitive, c'est la partie de la psychologie qui s'intéresse au traitement de l'information. Et qui est forcément pertinente dans le contexte des technologies, puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de canaux de communication qui sont mobilisés, donc un partage d'attention, une rétention en mémoire des informations, et il y a forcément des problèmes qui se posent. Et on a pensé justement que c'était un thème très important, donc on a fait un panel là-dessus, et puis il y a quelqu'un qui a proposé un workshop. Donc,
c'est vrai que c'est pour moi un des thèmes centrales, je pense que c'est l'enjeu même majeur dans tout ce dont on parle au niveau de la personne par rapport aux technologies, c'est de remettre un peu les technologies à leur place. Et moi je suis assez impatient de voir ce qu'il va dire, parce que j'espère en tirer même 2-3 leçons pour moi personnellement, qui suis sujet à énormément de stress et de sollicitations. Et les technologies, en ayant un peu mis tout le monde à plat, et la technologie qui me permet maintenant d'écrire à un Sud-Coréen pour l'inviter à une conférence à Genève, elle fait que il y a aussi le Sud-Coréen qui peut m'écrire, et du coup, là où je recevais peut-être 5 mails par jour il y a 2 ans, maintenant j'en reçois 100, et maintenant on peut m'interrompre n'importe quand avec mon téléphone portable, sauf quand je suis dans votre studio. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de challenges auxquels il va falloir répondre. Maintenant, moi je pense qu'on arrive à un point où la technologie nous rend improductifs, en fait. Donc il va falloir revenir un petit peu en arrière, et c'est ce dont on a voulu parler. On a d'ailleurs une professeure de l'université de Northampton, Nada Kakabadze, qui est quelqu'un qui étudie les problèmes que crée la technologie dans les entreprises, donc vraiment sous l'angle du management. Et l'année dernière, j'avais interviewé un sociologue qui m'avait donné 2-3 exemples d'institutions qui sont en train de revenir en arrière. Donc il y avait par exemple une ville, je crois que c'est la ville de Brighton, je dis peut-être une bêtise, mais il y avait une ville anglaise qui avait interdit aux gens qui travaillaient aux fonctionnaires qui travaillaient dans le même bâtiment de s'envoyer des mails. Donc si on était à la mairie, si on travaillait
On parle de mails de travail.
Voilà, non, on parle de gens qui sont physiquement dans le même bâtiment. Ils s'étaient rendu compte que les gens se parlaient plus parce qu'ils faisaient que s'envoyer des mails. Donc il y a quelqu'un qui a une espèce de règle en disant maintenant, si vous devez dire quelque chose à la personne du bureau d'à côté, il faut vous lever puis aller lui dire, quoi. Et l'autre exemple dont il m'avait parlé, que je trouvais intéressant, c'était une entreprise aux États-Unis qui était une entreprise d'informatique. Et dont le patron s'était rendu compte que les employés restaient souvent très tard et quand ils travaillaient tard le soir, la qualité du code qu'ils généraient était extrêmement avait tendance à beaucoup baisser. Donc il a d'abord dit à tout le monde il faut rentrer chez vous à 6h, aller dormir un petit peu, vous reposer pour être bien demain. Et puis ils restaient tous là parce que c'est des métiers assez prenants, assez passionnants. Du coup, le seul truc qu'il a trouvé à faire, c'est qu'à 6h, il allait couper le courant. Et donc je trouve assez marrant quand même qu'on soit en train de revenir parce que c'est vrai qu'on se fait tous envahir de technologie, on est tous beaucoup trop sollicités par rapport à ce qu'on peut encaisser et gérer. Et donc maintenant il va falloir qu'on trouve des méthodes, des outils peut-être, je sais pas, et c'est de ça dont on va parler.
Donc la source de stress principale est d'abord cette disponibilité permanente dans cet état de disponibilité dans lequel nous sommes. Et en plus, donc, les sollicitations extérieures qui sont créées, comme par exemple, vous dites, vous commencez la journée en ouvrant une boîte qui a déjà 100 mails.
Moi, je pense que c'est les interruptions. Pour moi, personnellement, ce qui me rend improductif, c'est le côté que je suis constamment interrompu. Donc, on n'a jamais le temps de mobiliser un peu toutes ces ressources. Et du coup, on développe une espèce d'incapacité à se concentrer au-delà d'une ou deux minutes, parce que ça n'arrive plus. Et donc c'est pour ça que j'essaie de, par exemple, dans mon travail, de créer des journées où je touche plus mon ordinateur, j'éteins mon téléphone et je pars faire complètement autre chose. Et c'est en général des idées, des jours où je suis extrêmement créatif parce que les choses, j'arrive à mobiliser un peu mes réflexions un peu plus loin que d'habitude.
Et là encore, c'est une problématique d'éducation. Je pense que c'est quelque chose qui va venir avec le temps, comme il y a ce concept de sur la nourriture, d'apprendre à bien manger. Il y aura aussi le information literacy, comment arriver à bien consommer de l'information, que ce soit l'information en papier ou électronique, et savoir s'interrompre par moment, car on n'a pas un système attentionnel à capacité infinie, et par moment il faut décrocher. Et c'est par l'éducation, en apprenant qu'il faut pas forcément se connecter tout le temps, peut-être aller... on n'est pas fait pour rester devant une machine toute la journée. Et donc, là encore, c'est intéressant de voir quelles stratégies sont mises en place par les gens, soit parce qu'ils ont été éduqués à ça, soit parce qu'ils en peuvent plus, donc ils vont, prendre le train dans les wagons CFF dans lesquels c'est interdit d'utiliser un ordinateur portable, ou ils vont marcher, ils vont courir avec plusieurs personnes pour discuter, ou dans certaines conférences académiques, il est interdit d'avoir le PowerPoint, pour recréer un peu des conditions différentes de créativité, parce que cette technologie qu'on pensait être... l'idée de cette technologie, c'était de soutenir la communication, soutenir la créativité, d'aider. Et finalement, un peu comme dans la citation de Marshall McLuhan, qui disait « Toute extension est une amputation », on s'est rendu compte que trop de technologie, finalement, égale trop d'interruptions, comme Laurent le mentionnait, et que peut-être il faut prendre un peu de champ et faire autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut supprimer toute technologie non plus, et tout le monde avec des technologies. Et donc ça, selon moi, c'est qu'une histoire d'éducation et de comprendre un peu ce phénomène et d'avoir des stratégies d'utilisation des technologies ou non-utilisation.
Et dans les inconvénients, est-ce que vous comptez parmi les sources de stress l'obligation de se tenir sans cesse à jour? Il faut toujours se mettre au courant, apprendre à servir de nouveaux logiciels, de nouvelles méthodes. Donc il y a aussi une possibilité, on est en formation permanente.
Oui, c'est une source de stress en effet, ouais, tout à fait.
Mais finalement, moi j'ai un peu l'impression qu'au cours du temps, on est quand même jeune, mais il y a quand même toujours les mêmes choses qui reviennent. L'informatique n'a pas changé tant que ça, les paradigmes, les modèles classiques de l'informatique n'ont pas forcément changé. Et qu'on repère un peu des tendances qui sont un peu toujours là. Et que cette nouveauté ou le constant flux, notamment informationnel, par les journalistes, ou sur les blogs, finalement, l'important, c'est d'arriver à séparer le bon grain de l'ivraie, quoi, de trouver un peu dans le bruit les points les plus importants. Et qu'au fil du temps, c'est une capacité qui s'acquiert et qu'il ne faut pas se laisser distraire. Ouais.
C'est vrai qu'il y a quand même un challenge de mettre un peu le curseur sur... où mettre le curseur par rapport à ce qu'on peut encaisser, à ce qu'on peut gérer. Il y a des moments où on peut accepter énormément d'informations, d'autres moins. Alors on empile des choses qu'on lira plus tard, etc. Mais ce que je trouvais intéressant, il y avait un futurologue, Alvin Toffler, qui disait que dans le monde, dans la société de l'information, l'analphabétisme, ça sera l'incapacité de désapprendre. Il y a beaucoup de négation dans cette phrase, mais si on n'est plus capable de désapprendre ce qu'on sait, on est analphabète. Donc c'est aussi en effet une capacité que maintenant dans cette société du savoir on doit développer, c'est que tout ce qu'on... Il faut toujours être capable de se remettre en question. Peut-être que maintenant moi ce que je sais faire, ça ne vaudra plus rien dans 4-5 ans, il faudra que je me réinvente. Donc d'un côté ça fait peur, de l'autre c'est aussi une opportunité permanente où peut-être maintenant on ne verra plus comme ça des sociétés ou des gens qui pendant des centaines d'années vont réussir à contrôler un domaine ou à empêcher les autres d'innover dedans, etc. Donc c'est il y a du bon, il y a du moins bon comme d'habitude.
Et ça oblige à une posture d'apprendre à apprendre et de se dire que le changement est là pour durer en gros. Et ça, il va y avoir du changement régulièrement.
Vous pouvez écrire à Cité Culture à l'adresse électronique citéculture@radiocité.ch et écouter ou réécouter les émissions sur le site web www.genevart.org.
Nous sommes toujours avec Nicolas Nova et Laurent Hogue pour parler de la conférence sur la technologie, sur les technologies qui aura lieu du 7 au 9 février. Nous avions parlé de toutes les applications de l'informatique. Il y en a une, normalement, eux disent même qu'ils sont à l'origine pratiquement de la plupart des développements, je pense aux artistes. Vous avez prévu également de présenter donc des travaux de ces artistes utilisent...
Donc nous, comme on est à l'intersection comme ça de beaucoup de domaines, un des domaines qui a toujours été présent, c'est l'art. Et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup eu d'artistes et de designers. Ce qui fait d'ailleurs que, entre parenthèses, on est une des seules conférences un peu technologiques dans lesquelles il y a beaucoup de femmes qui viennent. Donc ça, on est très content. Et on a créé en fait avec Bread and Butter, donc il y a une directrice artistique qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui malheureusement, mais Christiana Bolifretas qui a imaginé tout un tas d'événements en dehors des salles de conférences qui vont être faits par des artistes et des designers. Et l'idée c'est que vous allez être assis en train d'écouter des idées, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, il y aura peut-être une certaine surcharge d'informations à un certain moment parce qu'il y a énormément de présentations, énormément de thèmes, il y a des centaines de personnes intéressantes. Et du coup, vous allez pouvoir sortir et aller jouer, aller dessiner, aller créer quelque chose, aller bouger, courir. Donc on va créer un peu tout un tas d'activités pour que les gens puissent s'exprimer et casser un peu ce rythme habituel des conférences.
Et finalement, pousser la participation, le modèle participatif de Lyft, dans un mode d'interaction où les gens qui sont présents, tant les speakers que les participants, peuvent contribuer. Et produire quelque chose avec les artistes.
C'est d'autres façons de se rencontrer, quoi. C'est vraiment ça. Donc, par exemple, ils ont imaginé un studio photo où on pourra aller, mais on sera obligé de se faire prendre en photo à deux. Et on ne sait pas forcément avec qui on va être pris en photo. Du coup, si on vient à Lyft et qu'on connaît personne, on va faire la photo. La personne à côté, le photographe va peut-être vous dire de vous regarder ou je sais pas. Puis quand la photo sera finie, vous serez obligé d'aller boire un café avec puis vous aurez rencontré quelqu'un, quoi. Donc ils ont imaginé tout un tas d'activités qui permettent aux gens de se rencontrer d'une façon un peu différente. Et je pense que c'est un très bon complément. L'année dernière, on avait fait un sondage après Lyft 06, on avait demandé aux gens leur avis, puis un des trucs qu'ils nous avaient demandé, c'était justement plus d'activités sociales, plus d'occasions de se rencontrer, et comme les gens sont très paresseux, c'est toujours un peu aux organisateurs de les faire se rencontrer, donc là on tente un peu cette initiative et qui nous permet de nous rapprocher du monde de l'art, et c'est vrai qu'on a aussi pas mal de speakers qui sont quand même des gens qui viennent de ce domaine, ou qui sont très actifs dedans.
Alors le domaine de l'art avec la circulation des œuvres numériques nous amène aussi sur le sujet de l'aspect matériel. Comment est vécue la dématérialisation des œuvres? C'est-à-dire, on a parlé avant cette émission des chanteurs, par exemple, dont les disques ne sont plus produits. Le fichier musical existe, il est distribué via Internet, c'est d'ailleurs même maintenant, ses ventes représentent la plus grande partie du bénéfice de certaines maisons de disques. Donc le chanteur qui a produit son disque, pour ses copains, il peut même pas produire quelque chose de matériel, comme exactement la même pour un livre également. Vous avez écrit un livre, mais il n'existe pas en papier.
Moi, je pense qu'il y a une remise en cause, en fait, de tous ces supports, c'est sûr. Quelle est la pertinence d'un support comme le CD à une époque où tout le monde a un lecteur MP3? C'est vrai qu'on peut se poser vraiment la question. Moi, je pense que c'est... À chaque fois qu'il y a un peu une nouvelle technologie qui arrive, on pense qu'elle va toujours tuer l'ancienne, et du coup, on dit, bon, maintenant, comme on peut lire son livre, on peut télécharger un PDF, il n'y aura plus de livre. Mais en fait, ce qu'on voit toujours, historiquement, le magnétoscope n'a pas tué la télé, le cinéma, pas plus que le DVD n'a tué le cinéma. Au contraire, ça a permis de le développer. Et donc, il va se passer un peu la même chose avec toutes ces nouvelles technologies qui vont un peu se mettre à coexister avec les supports habituels. Je pense particulièrement au monde du livre. Moi, j'ai pas du tout envie de lire sur l'écran. J'ai toujours envie d'avoir l'objet. Imaginez ensuite le côté aussi offrir. C'est des objets qu'on offre beaucoup. Alors, on va pas offrir un fichier PDF à Noël, quoi. Ça sera un petit peu triste sous le sapin des clés USB avec des fichiers PDF. Par contre, dans le monde de la musique, il y a des choses vraiment très, très intéressantes qui se passent aussi pour d'autres raisons. Il y a non seulement l'arrivée des nouvelles technologies, mais il y a aussi le fait que pendant plein d'années, il y avait des business models qui étaient un peu abusifs, où finalement l'industrie du disque s'en fichait un peu de ce que les gens voulaient. Ils balançaient tout le temps les mêmes modèles. On sortait, quand il y a eu le premier boys band, d'un seul coup il y a eu 50 boys band, etc. Ils faisaient tous un peu la même chose. Et puis ils avaient un petit monopole confortable, et maintenant il y a plus de... La technologie a remis en question ça, les gens avaient envie d'autre chose. Et donc on voit émerger des business models radicalement différents, et qui sont extrêmement intéressants. Ce dont on parlait... C'était le business model d'une entreprise allemande qui s'appelle Salaband, qui est un label allemand. Donc le fonctionnement est le suivant. Les artistes, moi je suis un artiste, je viens sur le site et je mets une petite démo en MP3 que j'ai faite chez moi avec un micro. Et toutes les démos sont mises sur le site. Les gens peuvent venir écouter, et s'ils pensent qu'un artiste a du potentiel, ils peuvent acheter une action, plus ou moins. Ça s'appelle différemment, je crois, mais c'est un peu une action. Donc on met 10 francs. Et puis on a... un bout du travail de cet artiste. Donc ensuite, quand il y a assez d'argent, l'artiste part en studio, produit quelque chose, et ce qui a été produit est mis sur le site, et l'artiste va partager dans un deuxième temps ses revenus avec tous les gens qui ont investi en lui. Et c'est un modèle qui est extrêmement intéressant, parce que d'un seul coup, c'est une espèce de filtre démocratique sur quel artiste va réussir ou pas. Donc finalement, ce sont les clients qui choisissent eux-mêmes la musique qui leur plaît. Et puis ensuite, cette notion de partage des revenus, il n'y a plus vraiment d'intermédiaire entre l'artiste et ses auditeurs. Ça remet en cause énormément de choses, et je pense que c'est des modèles qui sont beaucoup plus pertinents que d'avoir comme ça des majors qui bloquent un peu le marché.
Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que la musique, à l'origine, c'est un spectacle vivant. C'est pas un CD inerte ou un MP3, et que peut-être le modèle économique s'axe autour maintenant de concerts et de spectacle en tant que tel. Et c'est là-dessus que en gros, le nerf de la guerre, l'argent est gagné. Et le MP3, les choses qui sont disponibles online, la musique online, n'est juste là pour faire connaître le groupe. Et ensuite, ce sont les spectacles qui font vivre les gens. Et finalement, c'est un juste retour des choses, parce que la musique était à la base un spectacle vivant.
Cory Doctorow, qui est un des grands spécialistes de toute cette industrie de la musique, racontait à Livre 06 que les premiers artistes à qui on a proposé de s'enregistrer ne comprenaient pas pourquoi. Parce que pour eux, une chanson, à chaque fois qu'il l'a jouée, il l'a réinventée, il l'a changée. Vous voyez, on est en train de revenir peut-être à des choses, plus à des façons de faire différentes. Puis il y a tout un tas d'opportunités de nouveau pour cette industrie qui a un peu mis les pieds sur le frein pour éviter de trop se remettre en question. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, un modèle qui m'a toujours fasciné, c'est le concept de magazine. Pourquoi est-ce que Madonna ne peut pas fonctionner comme un magazine où moi je m'abonne à ce qu'elle fait tous les mois? Et puis je paye un 5$ par mois, je sais pas. Et dès qu'elle est en studio, puis qu'elle fait une petite démo, bah, il y a 3-4 photographes qui prennent des photos que je peux aller voir directement. Dès qu'elle fait un essai, voix, je peux aller l'écouter en MP3. Dès qu'elle fait, il y a une petite vidéo d'elle à chaque fois qu'elle rentre dans son studio. Enfin, vous voyez, le concept un peu de... Plutôt que de bloquer un artiste dans un produit fini, comme vient de le dire Nicolas, ça n'a pas forcément du sens. Donc que ce soit toujours quelque chose de mouvant, puis auquel on s'abonne, ça fonctionnerait.
Et sur un autre type d'art qui est la littérature ou le livre, comme disait Laurent tout à l'heure, les gens n'ont pas forcément d'une part envie de lire sur un écran, Et ça pose la question des médias en général. C'est pas parce qu'il y a un livre électronique ou un livre sous la forme d'un PDF online que ça va remplacer le livre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a différents usages qui sont dévolus à différents supports. Et moi, j'aime bien commencer à lire 2-3 PDF pour voir un peu les choses et ensuite acheter le livre. Il commence à y avoir toute une économie qui se tourne autour de ça, où des gens mettent des choses en ligne, hein, des PDF ou d'autres formats, et ensuite les livres peuvent être critiqués, commentés par les gens, et ça n'empêche pas du tout la vente ensuite, bien au contraire, puisqu'il y a un petit peu de participation des gens à l'œuvre, qu'ils peuvent ensuite acquérir en tant qu'objet. Donc L'objet fait encore sens, en conclusion.
Donc il n'y a pas de problème de propriété matérielle, d'avoir le super coffret du grand musicien.
Pourquoi pas, si l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Je pense qu'il y aura toujours des fans qui voudront ça, et puis à côté, il y a des gens qui n'auront pas besoin de... Mais qu'il y a toujours moyen. Ce qui est important, c'est que pour les gens qui créent, je pense qu'il y a toujours des façons de vivre, de subsister à partir de leur création. Et c'est juste que maintenant, y a certaines choses qui étaient acquises qu'il faut remettre en cause. Mais d'ailleurs, nous, à Lift 07, on a organisé tout un panel là-dessus, où on a fait venir des personnes de différents domaines de la création. Donc il y a John Buckman, qui est justement un fondateur d'un de ces labels de musique qui fonctionne d'une façon un peu... ils font un peu le fair trade de la musique, le commerce équitable de la musique. Il y a Hugh MacLeod, qui est un cartooniste, donc qui fait des petits dessins, puis qui arrivent à en vivre très très bien en les vendant à des marques, etc. Et puis on a Zanga, donc le directeur du Festival des Nouveaux Médias de Pékin, qui lui est quelqu'un qui fait plutôt des installations. Puis on trouve intéressant de mettre ces trois artistes qui arrivent à vivre de leur art dans des domaines très différents, puis de leur demander comment est-ce que vous faites. Mais il y a clairement des solutions.
Il y a beaucoup de questions qui sont peut-être aussi dues à l'attitude, au ton souvent un petit peu péremptoire des gourous de l'informatique qui proclament, je pense par exemple, vous l'avez, ce sera le thème d'un workshop, les médias morts, dans lesquels j'ai vu qu'ils classaient aussi bien les radios actuelles et la télévision, ouais, pour prévoir que ce seront des flux d'informations qui vont remplacer les médias traditionnels. Et cela, c'est peut-être s'avancer un peu...
C'est complètement s'avancer, donc vous voyez à quel point Lift est une conférence novatrice. C'est qu'il se passe des choses dans le programme qu'nous, en tant qu'organisateurs, on ne maîtrise pas, avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Et là, c'est le cas, justement. On trouve ça très bien, hein, mais on n'est pas spécialement d'accord.
Justement, quand, par exemple, il classe parmi également les modes d'expression morts, il y a également la poésie, par exemple.
Oui, non, mais c'est... Il faudra aller voir le profil de la personne qui propose ça. Je pense que c'est un peu aussi pour provoquer, pour démarrer la discussion. Mais comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois qu'un nouveau média arrive, on pense qu'il va tuer les anciens, et ça n'est jamais arrivé. Quand la radio est arrivée, on a pensé que l'industrie de la musique était morte. Pourquoi ? Parce que les gens pouvaient écouter de la musique gratuitement, sans plus rien payer. Donc forcément, il n'y aurait plus de vente de disques. Bon, ça s'est pas passé. Donc moi, je pense pas que les médias traditionnels, dits traditionnels, vont mourir. Bien au contraire. Par contre, peut-être que la solution à leur problème n'est pas où ils pensent. Il y avait le directeur du Monde.fr, le site web du Monde, qui disait que c'est le monde en ligne qui va sauver le monde papier. Et c'est tout à fait possible, parce que les investissements sont en train de se déplacer maintenant du monde réel vers le monde virtuel, les investissements publicitaires, pardon. Et du coup, chaque média doit un peu se réinventer, mais tous ces anciens médias ont un acquis qui est absolument incroyable, c'est l'attention des gens. C'est que, justement, dans le flot d'informations incroyable qu'on essaie de m'envoyer au quotidien, je sais que quand c'est un des New York Times, mon niveau d'écoute monte et je prends ça pour une information beaucoup plus pertinente. Ça, c'est des choses que du jour au lendemain, personne d'autre peut construire. C'est très très dur à construire. Donc, c'est un acquis qui a toujours été là et qu'il va falloir maintenant trouver juste une autre façon de le monétiser, entre guillemets, pour devenir une entreprise un peu pérenne. Mais les opportunités sont là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, beaucoup de groupes de médias sont en train d'être rachetés par des venture capitalistes, qui sont des gens qui ne sont pas forcément connus pour leur altruisme, mais plutôt pour leur sens du business, et qui ont bien vu qu'il y avait des opportunités énormes dans ces groupes. Moi, je pense qu'il y a un avenir vraiment radieux pour les anciens médias.
Il y a un espace aussi, donc, qui va être, je crois, étudié aussi lors de Lift, celui sur lequel on nous promettait, enfin non, on ne nous promettait pas, on nous menaçait presque il y a une dizaine d'années de ces nouveaux espaces de travail, disparition des bureaux, disparition des entreprises et tout le monde télétravaillant chez lui, malgré toutes ces promesses, si l'on peut dire, on en est encore très loin.
Alors là, il y a la même question qui se pose que le, sur les médias morts. C'est le même problème. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout cet engouement pour le télétravail, comme quoi ça allait être la solution. Il n'y aurait plus de bureau, ou alors un bureau où les gens prendraient juste une table quand ils en auraient besoin. Pardon, et ce qu'on constate, c'est plutôt une cohabitation entre des modes de travail anciens et nouveaux, et que finalement, les technologies sont un peu ce que l'on expliquait tout à l'heure, un moyen de réinventer des nouveaux modes organisationnels, et pas forcément balayer tout ce qui a été fait précédemment. Et notamment la croyance que de remplacer le contact physique allait être possible, c'est un petit peu tombé. Et beaucoup moins pertinente aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas ménager des plages où les gens ne sont pas forcément présents. Et enfin, nous, on le voit dans notre quotidien, on se partage entre moments où on travaille tout à fait en présence, de manière traditionnelle, et d'autres où on est un peu à droite, à gauche, sans avoir vraiment le bureau traditionnel avec la petite machine, etc. Moi, c'est toujours cette histoire que je retiens, c'est dire pas forcément de révolution, mais plutôt une cohabitation entre différents modes, que ce soit de médias, de travail, d'organisation. Et le plus important dans tout ça, c'est d'apprendre à gérer ce changement. Et c'est un peu là le défi principal, et c'est un des thèmes qu'on espère aborder à l'IFT.
Et parmi ces thèmes, nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Est-ce que vous étudiez également, ou vous allez étudier, de quelle manière on va interagir avec le web dans le futur, un monde hyper connecté, peut-être dépendant, comme on en a dit tout à l'heure?
On a tout un moment qui va impliquer trois speakers. Il y aura trois présentations de suite sur tous ces problèmes d'interaction, justement, entre homme-machine. Donc comment permettre aux gens d'utiliser au mieux les outils qui sont mis à disposition par l'informatique, sur le web, etc.
Alors si je me trompe, Nicolas Nova et Laurent Haug, vous qui êtes deux spécialistes absolument plongés dans ce domaine, votre rêve c'est d'être déconnecté.
C'est de trouver peut-être un meilleur équilibre, on va dire, entre les... En tout cas pour ma part, c'est vrai que j'ai...
L'équilibre, ouais.
Tout est une question d'équilibre, quoi. C'est clair que quand on organise une conférence le dernier mois, je pense que bien avant les technologies, c'était tout aussi compliqué. Donc voilà, il faut un peu apprendre à travailler, puis des fois éteindre son téléphone la nuit, puis à se dire bon, bah, les choses arriveront quand même. On a aussi tous tendance peut-être à se sentir un peu plus indispensable qu'on est. Il y a peut-être un peu d'ego là-dedans aussi des fois, mais. Je pense que c'est quand même avant tout ce qu'on remarque, c'est qu'il y a il y a beaucoup de passion. Enfin, c'est quand même un moment qui est assez intéressant à vivre en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont toujours été. Il y a énormément de changements. Je crois c'est difficile à quantifier, mais il y a des gens qui disent qu'il y a eu dans les 8 prochaines années, il y aura autant de changements que dans les 20 dernières à peu près. C'est vraiment un moment qui est passionnant, qui est rempli de nouvelles idées, rempli d'initiatives, et on a quand même de la chance de pouvoir un peu contribuer, et puis.
Nicolas Nova.
Et puis ensuite de respirer après la fin de la conférence.
Voilà, ça nous
sans technologie
pas.
Et d'emmener les gens skier, parce que
c'est ce qu'on va faire juste après la conférence le lendemain. Voilà, on emmène tout le monde skier et puis manger une bonne fondue dans un endroit où il n'y a pas de réseau Wi-Fi.
Alors la conférence est donc à Genève du 7 au 9 février. Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'adresse du site web pour prendre des renseignements?
Alors donc, LIFT est une conférence à laquelle il faut s'inscrire, puisque c'est une conférence autofinancée sur 3 jours. L'entrée coûte 395 francs. Il y a un prix spécial pour les abonnés du temps. Et le site web, c'est liftconférence.com.
Laurent Haug et Nicolas Nova, merci.
Merci.